Histoire de matrimoine par Gaël Perel, les œuvres et les autrices en Bretagne depuis 1801.
Histoire de matrimoine est une invitation à découvrir les autrices en Bretagne, leurs œuvres singulières et universelles, écrites de 1801 à nos jours. Romans, essais, poésie, théâtre, récits de voyage, partons ensemble à la découverte de ces livres incontournables. Aujourd'hui, pour cette troisième balade littéraire, nous sillonnons à dos de chameau les pistes sableuses du Sahara, en compagnie d'Odette Dupuy-Godeau et de sa compagne Marion Sénon. Mais avant d'embarquer à Douarnenez en direction de Port-Étienne en Mauritanie, nous ferons une incursion dans les îles bretonnes, auxquelles Odette Dupuy-Godeau a consacré un recueil intitulé « Grandeur des îles », aujourd'hui publié aux éditions Payot. Avant d'arpenter le monde, Odette Dupuy-Godeau est une jeune aristocrate désargentée qui tente l'aventure en vain. Née en 1894 à Saint-Nazaire, sa petite enfance est nomade, puis la famille s'installe au Croisic en 1908 au manoir de Kervoudu. Elle décède à Rabat en 1991, quasiment centenaire. Enfant, fille unique, elle partage son quotidien entre son père, le peintre Ferdinand Dupuy-Godeau, et sa mère, Henriette, portraitiste, des parents à la fois conservateurs et bohèmes. Malgré la résistance de son père, qui souhaite la garder près d'eux, elle les quitte alors qu'elle a 26 ans. Nous sommes en 1920, elle cherche sa voie à Paris et se retrouve plusieurs fois empêchée de concrétiser ses rêves d'expédition au prétexte qu'elle est une jeune femme. Elle accumule alors les expériences professionnelles. Elle est dessinatrice scientifique, styliste notamment, multiplie les déceptions et s'ennuie. Des horizons plus larges l'appellent car elle se pique de découvrir le monde de la pêche. En 1928, elle obtient son premier livret professionnel maritime qui lui permet de travailler sur les bateaux, de partager le labeur quotidien des pêcheurs et de découvrir les îles bretonnes. Ses expériences sur les bateaux de pêche et ses escales insulaires nourrissent ses premiers articles qu'elle commence à publier dès 1930. Plus tard, son récit « Grandeur des îles » propose une plongée dans l'univers des îles de Ouessant, de l'île de Groix, de l'archipel de Molène et de l'île de Saint à la fin des années 1920. Ce récit, aujourd'hui, fait mémoire de la vie sur ces quatre îles bretonnes, une mémoire qu'Odette Dupuy-Godeau, autodidacte devenue ethnologue, souhaite nous transmettre. C'est en août 1944, au moment de la libération de Paris, qu'Odette Dupuy-Godeau signe la préface de ce recueil qu'elle va alors publier. Dans son préambule quelque peu emphatique sur le thème de la Bretagne éternelle, elle écrit « J'ai rapporté ces notes d'anciens vagabondages sur les voiliers et dans les îles du bout de mon pays, comme un enfant rapporte à la fin des vacances des coquillages et des cailloux luisants qui, loin de la mer, deviendront ternes et fragiles. Je ne pense pas que ces récits des îles, poursuit-elle, déjà anciens de quelques années, puissent être périmés. Il n'est sans doute pas inutile de savoir, avant qu'elles ne disparaissent, sur quelle enclume a été forgé le courage des Iliens. » Écoutons dans cet extrait de Grandeur des îles ce portrait haut en couleur d'une croisillonne qui révèle l'art de compter d'Odette Dupuy-Godeau, sa capacité à observer, puis à restituer, et son humour qui donne toute sa dimension à cette évocation. Grandeur des îles, île de Groix, une première lecture, La fille courageuse. Il n'y a plus personne à Portudy ou les grands bateaux à demi désarmés, blottis derrière les môles sous la garde des mousses, se cognent en geignant. Tous les volets sont clos. Personne non plus dans la lande au creux des chemins. La tempête est seule reine de la terre déserte et de l'eau déchaînée. Une reine ivre qui mène sa bacchanale avec des cris sauvages. Près du bourg, à mi-côte, une maison veille encore, solitaire. Depuis des années, les menaces du vent ne l'effraient plus. La découpe de son volet pose tranquillement un petit cœur de lumière au milieu de la route. C'est l'auberge accueillante où j'ai coutume de reprendre contact avec ceux de la terre et qui est comme le prolongement de mon bateau. Nous sommes là, face à face, le lion de mer et moi, les coudes à la table du milieu, les poings aux joues. Alors comme ça, ma fille, me demande le lion de mer, vous avez passé du temps avec les synagogues du Golfe ? Plusieurs mois. Il y avait des jeunes filles, 16, 18 ans, aussi bons marins que leurs frères. D'autres, des vieilles qui retournaient à la mer sitôt leurs gosses tirés d'affaires. Ça a beau être pêche côtière, c'est dur pour les femmes. Toutes les nuits, censément dans les bateaux à déhaler la drague à crevettes, et leurs parages sont pas toujours bien francs. C'est leur idée, quoi. Les grésillonnes aiment mieux leur maison et leur champ, pas vrai ? C'est sûr, mais faudrait pas croire qu'elles sont toutes poules mouillées à faire leur signe de croix pour embarquer sur le bateau de l'Orient, pareil comme si elles partaient pour l'autre monde. Moi qui vous parle, j'en ai connu deux ici qui ont fait la pêche toute leur vie. L'une, c'était une pas grand-chose. Elle allait au thon à chaque campagne avec son homme qui était patron de la fleur de groix. Toujours saoule qu'elle était. Mais le cœur à l'ouvrage, jamais craintive, ni lassée, ni rien. Une dégourdie de culottée, cette femme-là, oui donc. Et l'autre ? L'autre, c'était Marie-Jeanne Kersao, une cousine à mon père. 20 ans bientôt qu'elle est morte. On l'appelait la fille courageuse du nom de son canote. Bon, c'était une brave fille, la Marie-Jeanne. Toute gosse, elle avait du goût pour la mer. Elle n'était point gênée pour aller sur les bateaux à marée haute en se déhalant le long des amarres comme les gars. Plus vieille, elle n'a jamais voulu se marier. On est ben plus tranquille toute seule, qu'elle disait. J'ai pas besoin d'un mari pour m'embêter ma vie durant. Elle a fait à son désir et peut-être bien plus heureuse comme ça, avec sa petite maison et son canote pour gagner son pain. Quand sa mère a été morte, ses frères mariés, tous partis chacun de son bord, la Marie-Jeanne a pris une associée avec elle, Anne Jégo qu'elle s'appelait, une veuve qui avait perdu son mari et son gain en mer. C'est elle qui restait à la maison pendant que Marie-Jeanne cherchait du poisson. Pareil qu'un ménage. Vous l'auriez vue en mer, ma fille, vous auriez dit un homme de la manière qu'elle était gréée, avec cirée, bottes et surois. À terre, elle avait des jupons, 2, 3, en gros moulton en la mode de ce temps-là. Mais viens à mouiller, je te fous tout ça dans le pantalon ciré, qu'on aurait dit une balise bientôt. Au début des années 1930, Odette Dupuy-Godeau retourne à Paris où elle nourrit à nouveau ses rêves d'ailleurs depuis sa péniche. Cette même année, la mort de son père l'émancipe. En 1932, sa rencontre amoureuse avec la journaliste et dessinatrice Marion Sénon marque enfin le début de l'aventure. L'aventure, voilà comment elle l'a définie dans son récit « La route de l'Ouest » aux éditions Ibis Press. L'aventure est une entreprise hasardeuse, périlleuse et qui cependant peut offrir quelques attraits. Péril et attrait sont bien entendu inséparables. Le risque seul donne tout son sens à l'aventure. Sans lui, elle pourrait avoir des charmes, mais point de saveur ni de portée morale. Le but de l'aventure n'est pas de gagner, mais d'apprendre. Elle est une épreuve où l'on prend sa propre mesure et celui qui l'affronte ne doit s'accorder d'autre objectif que le témoignage de sa force d'âme et de corps, mise au service de la connaissance humaine. Tant mieux si le plaisir lui vient par surcroît. C'est donc son désir d'aventure, son désir de se mesurer à la vie qui anime Odette Dupuy-Godeau à la veille de son départ pour la Mauritanie en 1933. Son désir de se mesurer à l'immensité du désert, à elle-même qui saura se forger un destin. Le 28 novembre 1933, elles embarquent avec Marion Sénon à Douarnenez sur un langoustier en direction de Port-Étienne, actuelle ville de Noidibou, sur la côte mauritanienne.
والفرسية الأمي ذال والشارع وفحر في المدفع هكذا كنا هذا حالنا
Cette chanson de l'artiste mauritanienne Malouma, extraite de son album Nour, évoque la vie d'autrefois dans le désert. L'aventure, oui, mais laquelle ? Odette du Puy-Godot nous répond dans ce récit La route de l'Ouest. Et nous-mêmes, Marion Sénone et moi, pourquoi avoir choisi en 1933, avant qu'il fût complètement pacifié, ce morceau occidental du Sahara, mal pourvu d'eau, à peine adouci de steppes brûlées et de brousses épineuses, ces 850 000 km² de sable et de roc, où l'on peut cheminer bien des jours sans rencontrer un seul des 350 000 pasteurs nomades. Pourquoi ? Alors qu'il existe tant de beaux pays où la vie est plaisante et facile. Peut-être justement parce que nous ne souhaitions pas la vie facile, mais la vie primitive, avec ses risques, ses luttes et son total dépouillement. Mais la raison principale, je vais vous la confier sans détour, la Mauritanie était le seul pays suffisamment lointain, suffisamment prometteur d'inconnus et d'aventures, où pouvaient nous conduire les beaux voiliers de mon pays, les dandys de Douarnenez qui s'en vont pêcher la langouste verte dans les eaux africaines. Il ne nous en coûta ainsi que 3 semaines de tempête et 250 francs chacune pour atteindre fin décembre 1933 Port-Étienne, le seul port de la Mauritanie. Dans Pieds nus en Mauritanie, un récit édité aux éditions Payot, Odette du Puy-Godot commence son récit en détaillant leur traversée entre Douarnenez et Port-Étienne. Ainsi, le 28 novembre, nous nous étions embarqués avec 4 lettres de recommandation, 2 petits revolvers, un Kodak Junior et la mémoire farcie de bons conseils auxquels nous devions une cargaison de lainage digne de faire voile vers le Spitzberg. Ce voyage fut accompli sans aucune subvention par nos propres moyens qui étaient modestes. Mais tant qu'il y aura de beaux voiliers et de braves équipages dans les ports bretons, les voyages seront à la portée de toutes les bourses. Ne sachant trop quel titre nous donner pour excuser notre présence dans un pays où, d'ordinaire, les femmes ne vont point se promener, nous avions choisi celui de reporter. Cela nous valut bien des désagréments, mais il nous permit de mesurer la méfiance des coloniaux à l'égard de la presse. Dans le journal Ouest Éclair, leur départ est titré ainsi le 29 novembre 1933 par le journaliste Sévelec. À bord d'un langoustier douarneniste, 2 intrépides voyageuses, notre collaboratrice Odette du Puy-Godot et une rennaise Mademoiselle Marion Sénone, partent pour la Mauritanie. Elles sont chargées de missions ethnographiques et de reportages. Dans cet article du journal Ouest Éclair, Marion Sénone est présentée comme romancière, mais en Mauritanie, elle déploie ses talents de dessinatrice et de portraitiste qui donnent à voir notamment les morts dans leur tribulation nomade. Une vie qu'elles vont partager pendant plusieurs mois et qui leur fait sillonner la Mauritanie à dos de chameau sur près de 2500 km. Marion Sénone est au dessin. Odette du Puy-Godot dessine parfois, mais elle est surtout à la plume. Elle tient un carnet de voyage à l'origine de ses articles et de ses différents manuscrits. Pieds nus en Mauritanie, récit disponible aux éditions Payot, nous retrace ce premier périple. Mais avant d'écouter Odette du Puy-Godot, nous retrouvons l'artiste Malouna qui nous plonge dans la nuit du désert.
Rainin'
la chanson Kayala, ou l'histoire d'une danseuse morte au milieu des cavaliers et des chameliers, la nuit dans le désert. Ce désert où nous retrouvons Odette Dupuy-Godeau et sa complice. Lorsque nous eûmes épuisé notre vocabulaire arabe qui était court, nous rentrâmes chez nous. Marion avait sommeil et moi j'aurais bien voulu m'épouiller un peu. À peine avions-nous entamé nos programmes respectifs que Sidi arriva, suivi de Mohamed Fall et de toute leur escorte. Salam, conversation contemplative, thé. Le tam-tam avait repris sa bacchanale dans un nuage de poussière d'or. Amédou nous fit alors comprendre que c'était le moment de distribuer aux danseurs des pains de sucre, du thé et du tabac. Il y eut ensuite quelques départs, espoir de repos, retour offensif, jusqu'au dîner pour lequel tout le monde se réunit autour du thé, du méchoui et des calebasses de lait. Les troupeaux, revenus avec les premières ombres nocturnes, faisaient grand bruit à travers le campement. La 9e série de 4 verres de thé fut servie chez Sidi qui donnait une soirée en notre honneur. Une foule se pressait sous sa tente, guerriers, haratines et esclaves. Au centre, la griotte Barka chantait, tête renversée, la bouche tendue sous le voile qu'elle tenait relevé jusqu'aux yeux, le voile qui frémissait du frémissement même de ses lèvres. Elle chantait le fakou, elle le clamait comme si elle voulait du fond de cette tente exciter le courage des hommes jusqu'aux confins du désert. Fous sont les poltrons qui craignent la mort qui ne vient jamais qu'à l'heure écrite pour les braves gens et pour les peureux. Folie, folie d'espérer l'oubli du destin. Entre les strophes et les redites, ses petites mains faisaient vibrer les 22 cordes de l'ardine, harpe primitive venue jadis de lointains oubliés, avec la musique, les traditions, le peuple lui-même par les pistes d'Égypte. Avec aussi le tidinit, le petit luth simplifié, dont Swidat, le mari de Barka, rythmait sa chanson. Il faut être fort, il faut être gai pour être courageux. Ensemble, ils chantèrent les hymnes des prophètes. Puis, la gloire de leur chef, le plus fort, le plus beau et le plus illustre, celui qui, dès sa jeunesse, fut habitué aux louanges, celui qui est l'œil de sa tribu, l'ami des grands, le protecteur des petits, celui qui est généreux pour les pauvres griots. Des captives parées d'ambre et d'argent, groupées derrière les musiciens, ajoutaient le rythme de leurs paumes à celui des cordes et des calebasses. Une odeur sauvage montait de ce peuple, l'odeur des morts faite de sueur, de cuir, de thé et d'épices. Et de la nuit où bêlent les troupeaux, nous venait le parfum des fleurs jaunes du Tala. Barka chantait. La figure à présent dévoilée, elle mimait sa propre chanson, sa propre passion, précipitant sur l'ardine posée entre ses genoux, sur le tidinit dont Swidat pinçait les cordes, un îlot de petites notes au rythme compliqué. Ses mains, ses bracelets, son chapelet, les tresses de ses cheveux, ses voiles entrées en danse. Musique de rythme et non de mélodie. Barka n'était plus que rythme. Assise cependant, elle était plus dansante qu'une feuille dans le vent. Ce soir, Swidat et Barka ne pensaient qu'à faire belles choses pour les Nazaréennes. Nous les avons écoutées longtemps. Nous avons regardé leurs belles mains aux gestes accomplis, jusqu'à ce que Barka, relevant son voile sur son visage calmé, reparte vers sa tente. Et qu'on n'entende plus que les mille rumeurs qui sont le silence des nuits du désert. Dans Mémoire du pays mort, 1934-1960, Monique Vérité, la biographe d'Odette Dupuy-Godeau, présente les carnets de voyage de l'ethnologue accompagnés par les superbes dessins de Marion Sénone. Les deux comparses sont happés par ce pays africain et nouent des liens puissants avec les Mauritaniens et les Mauritaniennes. Nous étions, nous aussi, devenus des nomades. De nos compagnons, nous avions appris la patience, l'endurance, un sage fatalisme, et l'art de soigner les chameaux dont les exigences doivent primer tous les autres soucis du caravanier. Son travail, son plaisir et son repos. Le plus grand service que mes compagnons de route, illustres ou obscurs, m'ont rendu, c'est de m'avoir appris à aimer les choses et les gens de ce pays et l'existence libre et dépouillée que nous y menions ensemble. Après ce premier voyage, elles inspirent chansons et poèmes au peuple mauritanien, étonné par ces deux dames venues à leur rencontre. Côté français, elles marquent aussi les esprits dont celui de Théodore Monod et se voient au fil de leur expédition confier des missions à la fois archéologiques, ethnographiques, littéraires et artistiques. Plusieurs séjours se succèdent, en 1937, en 1950 et en 1960. Depuis l'époque coloniale, au temps de l'AOF, l'Afrique occidentale française, jusqu'à l'indépendance de la Mauritanie en 1960. Pendant 17 années, elle se familiarise donc avec ce pays africain, son histoire, ses croyances, sa culture, sa religion et son mode de vie. Grâce à la confiance qu'elles ont acquise de part et d'autre, elles peuvent revenir vivre au cœur de cette société nomade dans laquelle elles aiment se retrouver. Écoutons Odette Dupuy-Godeau au micro du journaliste Pierre Fromentin à la veille de leur troisième séjour. Une archive diffusée le 18 juin 2021 sur l'antenne de RFI dans le cadre de l'émission de Céline Develay-Mazurel « Si loin, si proche ».
Je crois, Odette Dupuy-Godeau, que vous vous préparez à retourner en Mauritanie.
Mais oui, nous repartons avant la fin de ce mois, pour le Maroc d'abord, et pour l'AOF ensuite, grâce à une mission officielle qui nous a été confiée par le gouvernement général de l'AOF.
Je suppose que vous avez couché sur votre papier déjà votre itinéraire.
Oh oui, certainement. Nous comptons d'abord dans le sud marocain visiter surtout la vallée du Drac, depuis Ouarzazate, depuis le coude du Drac jusqu'à la mer.
De ces années passées en Mauritanie, Odette Dupuy-Godeau nous confie. Lorsque je pense aux 5 années que Marion Sénon et moi avons passées en Mauritanie, aux épreuves que nous y avons subies, aux joies que nous y avons goûtées, lorsque j'évoque les amitiés que nous y avons liées et qui nous attendent, je trouve que nous avons eu une chance incomparable d'avoir connu cette simplicité, ce recueillement, cette grandeur des nomades et d'y être arrivés à temps pour recueillir la leçon de ce monde du désert que le monde moderne menace, ébranle déjà et va brutalement bouleverser. Et un jour nous repartirons, Marion et moi, vers le désert qui n'a point de porte, vers d'autres joies, d'autres peines, d'autres nomades, d'autres musiques, d'autres secrets, vers ce désert où les grandes tentes jalonnent la route lumineuse de l'aventure et sont toujours ouvertes aux voyageurs qui passent. En 1960, le couple s'installe à Rabat, au Maroc, où Odette Dupuy-Godeau vit jusqu'à sa disparition en 1991. Elle meurt 14 ans après le décès de sa compagne, survenue en 1977. Entre mer et désert, leur vie est tissée de voyages, de rencontres et de leur volonté partagée de raconter, de témoigner. Des îles bretonnes au désert, côtoyer, tisser des liens, éprouver le monde pour le transmettre, en mouvement, en résistance. Un monde qui s'efface peu à peu, un monde aujourd'hui toujours visible grâce au dessin de Marion Sénon et au texte d'Odette Dupuy-Godeau. Pour poursuivre leur voyage inspirant, plongez-vous dans ces récits depuis Grandeur des îles à pieds nus en Mauritanie, depuis le sel du désert à la route de l'Ouest, depuis la grande foire des dates à la mémoire du pays mort, carnet de voyage abondé de photographies et de superbes illustrations. Par ailleurs, Monique Vérité a consacré plusieurs biographies à l'ethnologue, l'une chez Payot, Odette Dupuy-Godeau, une Bretonne au désert, et la deuxième, publiée en juin 2023 aux éditions Locus Solus, intitulée « Odette Dupuy-Godeau et la Bretagne ». Nous nous quittons aujourd'hui sur cette formule d'accueil mauritanienne. Maintenant que tu es arrivé sous ma tente, tu es rentré chez toi.
Histoire de matrimoine par Gaëlle Perel, les œuvres et les autrices en Bretagne depuis 1801.